Project.
Vue du web avec cette semaine Mélissa Bounois de Slate et Jennifer Gallet de The Conversation. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Cette semaine, vous vous êtes intéressée à Uber avec ses chauffeurs, ce que vous avez appelé sur Slate le douloureux paradoxe du capitalisme banlieusard. Et chez The Conversation, vous nous décrivez les dessous du rachat d'Uber China par Didi en Chine. Commençons par Slate avec les désillusions des chauffeurs d'Uber. Mélissa Bounois, c'est issu d'une étude. C'est bien
oui.
Ça.
Nous, en fait, on publie le travail d'une ethnologue qui s'appelle Fanny Paris et qui a conduit une vingtaine d'entretiens avec des chauffeurs Uber entre janvier et avril 2016 et qui, du coup, transcrit le résultat de ces entretiens et qui constate, si vous voulez, une différence entre le rêve que peut constituer l'idée de devenir chauffeur
ouais.
Et la réalité du travail au quotidien de ces chauffeurs et qui disent à la fois je vais réussir, je vais avoir un métier agréable, je vais porter un costume, je vais être dans une voiture et en même temps je travaille 80 heures et mes clients me considèrent parfois comme des larbins.
Les clients, on est bien d'accord, donc ce sont ceux qu'ils transportent. Finalement, il y a une forme de lutte des classes qu'elle constate, cette chercheuse, dans votre article.
C'est ça, elle parle donc de capitalisme banlieusard et lui associe un paradoxe parce que donc ce capitalisme banlieusard, c'est l'idée que on peut créer son entreprise, devenir un chauffeur privé parce que vous avez plusieurs catégories, les chauffeurs privés qui sont donc des VTC et ce qu'on appelle les capacitaires qui sont des gens qui peuvent embaucher des chauffeurs non professionnels et leur donner, si vous voulez, un poste. Et ces jeunes-là, qui sont des chauffeurs non professionnels, eux vont être les personnes qui vont être véritablement exploitées, mais qui se disent que c'est un métier super parce que parfois ils font face à de la discrimination à l'embauche. Et là, en gros, ils peuvent trouver un métier du jour au lendemain. Ils peuvent gagner leur vie. Sauf qu'ils vont se retrouver donc face à leurs clients qui, eux, considèrent voilà, que c'est un service et donc ne pas forcément s'adresser à eux comme il faut. Et donc, ces jeunes personnes-là qui vont travailler parfois 24 heures de suite parce qu'ils veulent se faire de l'argent, sont très fatigués et en plus se retrouvent confrontés, si vous voulez, à ce qu'ils voulaient fuir, à la fois en ne travaillant pas à l'usine ou en ne travaillant pas dans des entreprises où il y a du racisme ordinaire qui ne voudrait pas les engager parce qu'ils viennent d'un banlieue, parce qu'ils ont certaines origines.
Uber, finalement, qui a le mauvais rôle chez vous, chez Slate. Et chez The Conversation, alors, c'est plus global. Quand on prolonge le sujet, on se rend compte que tout n'est que stratégie. Uber China a été racheté. Ce n'est pas forcément Uber qui part de Chine et c'est ce que vous avez tenté de décrypter, Jennifer Gallet chez The Conversation. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on peut nous expliquer un petit peu?
Oui, alors c'est la perspective plus stratégique hein, de cette entreprise qui est décryptée par Marc Bidan, qui est un spécialiste en management des systèmes d'information de l'université de Nantes et qui nous montre que c'est une apparente défaite. C'est-à-dire que Uber qui arrive sur le marché chinois ces dernières années et qui doit faire face à un concurrent chinois féroce, Didi, et en fait Uber, voilà, depuis 2014 essaye de se faire une place en Chine. C'est compliqué. Le chinois qui est en face, il a des fonds, il peut subventionner les courses, etc. C'est un énorme marché. Et en fait, là, Uber, il est obligé de constater qu'il fait des dépenses considérables pour percer ce marché chinois. Il n'y parvient pas. Donc, on arrive à cette situation de rachat d'Uber en Chine. Mais d'une certaine façon, notre chercheur montre que c'est une stratégie qui va s'avérer certainement gagnante, qui est la stratégie du cheval de Troie, puisque en fait...
Uber reste dans le capital.
Uber reste en Chine, déjà. Ouais. Uber reste en Chine. Il se fera plus discret, c'est-à-dire qu'il va être sous la coupe, d'une certaine façon, du concurrent Didi, mais d'une certaine façon, ça va être un poste d'observation essentiel pour mieux comprendre ce marché chinois, développer ce qui doit être développé pour que Uber puisse se faire une place, sachant que le patron d'Uber va siéger au conseil d'administration, donc il est présent. Et puis, c'est surtout un poste d'observation très, très privilégié pour la région,
voilà.
Et notamment pour l'Inde.
Finalement, voilà. Dans vos deux articles de Slate et The Conversation, on comprend que Uber, en fait, gagne sur tous les plans, que ce soit au niveau du salariat et que ce soit au niveau de la stratégie d'entreprise. On va passer maintenant aux articles qui ont été les plus lus sur vos sites. Je vais continuer avec vous, Jennifer Gallet de The Conversation. Comment ça, le Bitcoin et la blockchain seraient des gouffres énergétiques? Le numérique est responsable du réchauffement climatique. Expliquez-nous.
Alors, responsable du réchauffement climatique, peut-être pas. Mais en tous les cas, ce qui est très intéressant dans cet article qu'on a fait paraître de Fabrice Flippo et de Michel Berme de Télécom École de Management, c'est de montrer que cette économie qui est dite immatérielle, où on parle de nuages, de virtuel, bah, en fait, elle n'est pas du tout. En fait, il y a un principe qui est quand même assez simple et qu'il faut comprendre, c'est que plus on dématérialise les contenus, donc les données, les fichiers, les flux, et plus on matérialise les contenants, c'est-à-dire les terminaux, les data centers, les réseaux.
The Conversation, donc le Bitcoin et la blockchain des gouffres énergétiques. Et puis, on va terminer avec vous, Mélissa Bounois de Slate. Vous êtes revenue sur la polémique autour du burkini. Jean, vous en avez un peu marre.
Oui, on publie le billet de blog en fait, d'un avocat qui s'appelle Rubin Svadj et qui, à lire tous les articles sur les burkinis après les arrêtés municipaux qui ont été pris dans différentes villes du sud de la France, dit « j'en peux plus, on ne peut pas débattre d'autre chose en France. Est-ce qu'on n'a pas d'actu ?» Il s'adresse à la fois aux politiques et aux journalistes en disant « qu'est-ce que vous foutez ?» Vous avez vraiment du travail à faire, des débats, enfin des articles à écrire ou des débats à avoir sur d'autres sujets. Et donc lui, il dit voilà, c'est la présidentielle arrive et il ne faudra pas regretter, si vous voulez, en 2017, d'avoir pris 2 semaines pour parler de burkini.
Bah, je pense que vous avez tout dit en même temps. C'était donc Vue du Web avec les sites Slate et The Conversation, Mélissa Bounois et Jennifer Gallet. Merci à toutes les deux et à la semaine prochaine pour la dernière.